Pour loger la troisième étude dans le reste de cette cassette, les textes bibliques cités ne sont pas enregistrés. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes.
Chapitre 1er, nous nous étions arrêtés au verset 19 et nous reprenons notre lecture au verset 20. Dans les versets 13 à 20, nous avons eu la description des quatre premières grandes épreuves qui s'abattent sur Job. Et au verset 20, nous allons voir la réaction de Job. Certes, Job entre aussitôt dans le deuil. Nous avons vu que les quatre cataclysmes qui s'abattent sur lui et qui lui sont annoncés en une seule journée sont quelque chose de considérable. Il perd ses trois enfants, ses troupeaux, ses chameaux, tout lui est enlevé dans des conditions dramatiques, et il est certain que Job en éprouve un choc et une grande douleur. Alors il entre dans le deuil, déjà pour ses enfants, bien sûr, essentiellement, et il laisse libre cours à sa peine. Mais son attitude à l'égard de Dieu ne se départit pas de la soumission. Il se prosterne, ce qui implique une certaine adoration. Vous savez que adorer vient d'un terme qui veut dire se prosterner devant le Seigneur. Ses paroles sont empreintes d'une pensée où apparaissent le respect de l'Éternel d'une part et la persévérance à le reconnaître comme maître absolu de la vie d'autre part, de la vie et des biens. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il n'admet aucune considération susceptible de ternir la gloire de Dieu, d'un Dieu souverain, qu'il sait être souverain. Il ne commet alors, comme dit le texte, aucun péché et ne veut admettre aucune déduction que son cœur aurait pu lui suggérer, aucune déduction mettant en cause la justice de Dieu. Il sauvegarde la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Tout cela est très bien. N'oublions pas que nous avons à conduire notre méditation de ce livre de Job, qui est très riche, nous l'avons dit, qui a une place importante dans les livres de la Bible, et par conséquent dans la révélation de Dieu. Nous avons à conduire cette méditation en vue d'une recherche spirituelle. Nous ne sommes pas là simplement pour faire des explications de texte. Nous recherchons, n'est-ce pas, l'enseignement, les leçons d'ordre spirituel les plus profondes qui puissent être contenues dans cette révélation que fournit la parole de Dieu, une recherche spirituelle. Par conséquent, nous allons toujours être là en quête de l'idée que le texte pourra nous suggérer, nous livrer, et que nous devrons considérer attentivement pour savoir ce que vraiment l'Esprit de Dieu a chargé ce récit de nous dire. Nous voyons là donc que Job ne pèche point, n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il reste dans une parfaite soumission. Cela ne veut pas dire que son cœur soit vraiment rempli d'amour pour la personne de Dieu. Nous allons voir que précisément c'est ce qui fait défaut, et c'est, on peut le dire déjà, C'est ce qui motive ce passage de notre personnage, Job, par une telle épreuve. Nous arrivons au chapitre 2 et nous allons lire les 10 premiers versets. Voilà une nouvelle comparution de Satan devant Dieu, toujours dans les mêmes circonstances. Les termes sont les mêmes. As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est exactement les mêmes termes, mais là, Dieu ajoute, il demeure ferme, il y a quelque chose de nouveau, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc la fermeté de Job, et adresse à Satan une observation, un reproche même, celui d'avoir demandé cette lourde épreuve, sans que réellement le soupçon avancé par lui ne soit trouvé justifié. Et Satan est donc amené à demander autre chose. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors là, nous rectifions également la traduction du verset 5, et nous disons, touche à ses os et à sa chair, on verra s'il te renie en face, s'il te renie ouvertement. Peau pour peau, il s'agit là d'une expression proverbiale dont l'auteur, l'écrivain sacré s'est saisi. Il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, cette expression proverbiale est là, le texte est adressé à des Hébreux, et par conséquent, ils en comprennent le sens, n'est-ce pas, c'est un récit bien entendu, pour lequel l'écrivain sacré a pu, sous la direction du Saint-Esprit, employer un langage que les destinataires du texte pouvait comprendre. Peau pour peau, c'est pas très, nous ne comprenons pas nous très bien ce que ça veut dire au fond. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. La peau est l'enveloppe du corps, et ce qui est extérieur n'est pas partie intégrante de la personnalité, par conséquent, la peau, en somme, ici, c'est la personne physique, la peau, c'est la vie physique, et la peau, seule, la vie physique, seule, peut valoir la vie physique. C'est bien le plus précieux, c'est le bien le plus précieux qu'un homme puisse posséder, et Job, jusque-là, a conservé sa vie et sa santé, et si sa vie est touchée, c'est ce que suggère ici Satan, alors il ne pourra pas demeurer fidèle. Satan demande donc à l'Éternel que Job soit atteint dans sa santé et soumis à l'épreuve de la maladie. L'Éternel y consent à la condition que Job reste en vie. Toute épreuve, bien entendu, n'a de portée que si celui qui l'a subi reste en vie et puisse ensuite en retirer quelque avantage et manifester l'avantage qu'il aura retiré de l'épreuve. Si l'épreuve devait amener la mort, eh bien, on n'en verrait pas, évidemment, le bénéfice, n'est-ce pas ? Par conséquent, notons cela pour nous, nous qui sommes susceptibles de traverser des épreuves, nous savons que nous pouvons être attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, l'épreuve de notre foi, cela évidemment n'est pas agréable, peut nous attrister, mais il s'agit d'obtenir un résultat, l'affermissement de la foi, qui est plus précieuse que l'or le plus fin. Et Satan ne perd pas de temps, tout aussitôt il agit et il frappe Job d'un ulcère malin. depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. D'après tous les symptômes que l'on peut relever dans le corps même du récit, dans tout le livre de Job, cette maladie ne pouvait être qu'une certaine variété de lèpre appelée lépra nodosa, la lèpre des nœuds, lépra nodosa, appelé aussi l'éléphantiasis, en raison de l'enflure des jambes et de leur aspect extérieur. Les jambes, en effet, les jambes et les pieds se couvrent de croûtes grises qui ont surtout contribuer à motiver la comparaison avec les jambes d'un éléphant. Éléphantiasis vient de cela. Ce mot a été adopté par comparaison avec les jambes d'un éléphant. Et cette maladie commence par l'irruption de pustules qui ont comme la forme de nœuds. Lépra nodosa, comme la forme de nœud. Et elle s'étend à tout le corps comme s'étendrait un chancre. Le visage est boursouflé et luisant comme s'il avait été enduit de suif. Le regard se fait fixe et hagard et la voix faible. Les douleurs sont quelquefois atroces, et le malade est un objet de dégoût pour lui-même et pour les autres. Il est bien entendu accablé de tristesse, et il éprouve en outre une faim insatiable. Ne pouvant dormir, et étant en plus accablé de cauchemars, même dans une demi-somnolence, il est accablé de cauchemars. Le gouvernement norvégien, au cours du XIXe siècle, a fait publier un ouvrage sur cette maladie. Il faut croire qu'elle était très menaçante, surtout en Orient. Et cet ouvrage a été traduit en français, c'est ce qui fait que nous sommes assez renseignés sur ce qu'elle est. Ce fut d'ailleurs longtemps la maladie la plus redoutée de l'Orient. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Les démangeaisons, bien sûr, facile à imaginer, sont difficilement supportables. Et le détail que nous avons là, Job prenant un tesson pour se gratter, dénote, entre autres mentions dans le livre, le côté historique du récit. Je dis cela parce que d'aucuns ont prétendu qu'il s'agissait là d'une fiction et non pas d'un récit historique, et nous avons là un détail, comme bien d'autres, qui infirme une pareille prétention. Et alors, Job s'assit sur la cendre. On a quelquefois dit que Job était assis sur un fumier. Job assis sur son fumier, c'est un peu devenu légendaire, cela. On peut traduire le mot hébreu qui est là, parfumier. Mais au sujet de la cendre, je vais vous laisser envisager trois explications possibles. La première est celle-ci. Job se serait assis sur de la cendre en signe de deuil et d'humiliation. La cendre servait souvent à cela, n'est-ce pas, le deuil et l'humiliation. Deuxième hypothèse, la cendre pouvait peut-être lui apporter quelque soulagement. La cendre qui reste chaude longtemps pouvait lui apporter quelque soulagement. Et enfin, troisième explication qui va m'amener à vous parler un petit peu plus longuement des circonstances où pouvait se dérouler la vie de Job en Orient, en Arabie. Si l'on a parlé du fumier de Job, c'est parce que la traduction des 70, des 70, traduction de l'Ancien Testament en grec par les 70 avant notre ère. Elle est connue, cette traduction, elle est souvent consultée, et même il y a dans le Nouveau Testament des citations qui proviennent de la traduction en grec, de l'hébreu en grec des 70. L'hébreu était beaucoup moins utilisé, beaucoup moins connu, c'est pourquoi 70 spécialistes avaient jugé bon de traduire l'Ancien Testament en grec. Alors, donc, dans cette traduction en grec de l'Ancien Testament, c'est le mot fumier qui est mis à la place de cendre. Et puis, alors, la Vulgate, qui est la Bible en latin, elle aussi a repris la même traduction, la traduction des 70, et employé le mot fumier. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la légende s'est formée de Job assis sur son fumier. Voici pourquoi le mot fumier a été adopté. À l'entrée de tous les villages du Oran, qui était la région de l'Arabie où se situe Uts, la ville de Job, il y a toujours un emplacement désigné pour déposer les immondices enlevées des étables. Beaucoup de troupeaux, par conséquent, des étables, et il fallait se débarrasser des immondices. Il y avait donc un endroit à l'entrée du village pour les déposer. Et ces immondices n'étaient pas mélangées à de la paille comme le fumier des étables de notre époque, pour la bonne raison que la litière était absolument inutile pour les chevaux et pour les ânes. Dans un pays où il n'y avait pas d'humidité, on n'usait pas de litière. Et d'ailleurs, la paille était une matière aménagée. Par conséquent, il n'y avait que les excréments des animaux qui étaient déposés en cet endroit. Mais, à force de les accumuler, ces excréments formaient peu à peu un monceau que l'on appelait mesbélé, le mesbélé. Et après de longues années, ce mesbélé formait une véritable petite colline et surpassait même en hauteur et en volume les bâtiments les plus élevés du village. Ce fumier qui séchait pendant le jour sous l'ardeur du soleil d'Orient, était cependant encore en plus brûlé ordinairement tous les mois. Tous les mois, ce fumier bien sec, ces excréments bien secs, étaient brûlés. On y mettait probablement du bois, n'est-ce pas, pour amorcer le feu, et l'on brûlait ces excréments. Et comme le sol chaud et fertile de ces contrées n'a pas besoin d'engrais, évidemment, on aurait pu, c'est l'idée qui nous vient à nous, n'est-ce pas, utiliser ce fumier pour fertiliser le sol, mais on n'en avait pas besoin, absolument pas besoin. Il n'y avait pas d'ailleurs à cette époque de culture intensive, on cultivait un endroit et on laissait la terre se reposer, si bien que les cendres produites par la combustion de ces immondices restaient là, s'entassaient, s'y accumulaient pendant des siècles. Et ainsi, le mesbélé finissait par atteindre une grande hauteur. En plus de cela, les pluies d'hiver durcissaient les couches de cendres superposées et contribuait à transformer le Mesbélé en une véritable colline, au point que l'on creusait même, l'on pouvait même creuser à la base de cette colline des fosses à grains appelées Biar el Gal, et il paraît que le grain se conservait très bien dans ces fosses. Et alors, le Mesbélé pouvait servir aux habitants de la commune de lieu d'observation. Souvent, c'était le, n'est-ce pas, la contrée était très souvent très plate, et là, c'était un lieu d'observation, et l'on s'y réunissait pendant les soirées étouffantes de l'été pour jouir d'un peu de vent frais. Les enfants y allaient jouer aussi quelquefois. Or, on peut admettre que Job, frappé d'une lèpre, et qui était une maladie repoussante, exigeant un éloignement, avant que même que la loi ne soit donnée, n'est-ce pas, la loi de Moïse, qui, elle, prescrira l'éloignement des lépreux dans certaines conditions, déjà, évidemment, cet éloignement était usité. Alors, Job a pu être dans la nécessité de s'éloigner et a pu se retirer en ce lieu. Si nous regardons le verset 12 du chapitre 2, lisons ce verset 12, « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. » Alors, il s'agit là des trois amis de Job qui arrivent, et de loin, ils aperçoivent Job. Ainsi, s'ils l'aperçoivent de loin, c'est que Job n'était pas dans sa maison. Il n'était pas dans sa maison, et il était visible, n'est-ce pas? Il pouvait donc être sur le Mesbélé. C'est une chose, c'est une hypothèse assez probable par conséquent. Alors, voilà pourquoi on a longtemps parlé de Job assis sur son fumier ou assis sur la cendre. Les deux choses sont exactes, si vous voulez, c'est bien en effet un fumier et c'est bien de la cendre puisque les excréments étaient régulièrement soumis au feu. Au verset 9, nous transformons aussi cette traduction. Nous mettons celle-ci de préférence. Sa femme lui dit, tu persévères encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. Non pas maudit Dieu, mais renie Dieu et meurs. Cette femme pensait en effet qu'en reniant Dieu, son mari précipiterait sa mort. Elle n'apporte pas une incrédulité absolument totale. Elle ne nie pas l'existence de Dieu, mais elle pense que, puisque la situation est celle-là, le mieux c'est de renier Dieu, et qu'en reniant Dieu, eh bien, la mort sera avancée, et la mort vaut mieux que de faire durer une situation aussi pénible. Mais il est certain que le conseil de cette femme est perfide. Si Job l'avait suivi, Satan aurait aussitôt triomphé. Satan, c'est ce que Satan voulait, bien sûr, c'est ce qu'il aurait désiré, c'est que Job puisse renier Dieu, non pas maudire, maudire c'est beaucoup trop fort. Mais renier Dieu, on ne voit pas pourquoi Job se serait mis à maudire Dieu, c'est pas maudire, c'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas pourquoi notre traducteur a choisi ce terme. C'est d'ailleurs une parole qui irrite Job. Et il réplique à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Vous savez que l'insensé, dans la Bible, c'est l'homme qui veut ignorer Dieu et qui renie la foi. Comme nous le voyons dans le psaume 14, verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Job perd ainsi le seul soutien moral sur lequel il pouvait compter, le soutien moral de sa femme. Voilà quelque chose encore qu'il abandonne. Et on se demande, on peut d'ailleurs très bien le supposer, cette suggestion de la femme de Job lui a été donnée par l'ennemi, par Satan. C'est encore là un coup de Satan. La réponse de Job est vraiment sage et dénote une soumission à Dieu qui va loin. Sa réponse, la voici, quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Nous acceptons bien quand Dieu nous procure des choses agréables, des choses qui constituent notre bonheur. Alors nous sommes réjouis, n'est-ce pas ? Nous acceptons ça de bon cœur. Et lorsque Dieu juge nécessaire de nous faire subir certains maux, nous ne les recevrions pas, nous ne les accepterions pas. Pourquoi ferions-nous ce choix, n'est-ce pas ? Si tout cela vient de Dieu, eh bien, nous prenons tout. Il y a donc là, n'est-ce pas, une soumission qui va loin. Et, je le redis, cela ne prouve pas, toutefois, que dans le cœur de Job, il y ait de l'amour, un amour véritable pour la personne de Dieu. Parce qu'il manque la connaissance de Dieu. Hier, l'on m'a dit ici, mais Dieu fait une expérience avec Job, et cette expérience a une portée universelle. Mais alors Abraham qui vivait avant Job, lui a bien été considéré comme un homme fidèle, et même l'Écriture en a fait le père des croyants. Eh bien, certes, Abraham vient dans la suite des temps avant Job, et Job est même un descendant d'Abraham par Ésaü. Mais il y a une différence entre l'expérience d'Abraham et celle de Job. D'abord, Abraham, c'est lui qui est choisi, le seul que Dieu choisisse comme point de départ de son œuvre, de son plan de salut. Il est choisi. Et alors, en raison de ce choix, Abraham va recevoir de Dieu plus d'une parole, non seulement une invitation à quitter son pays et à venir dans le pays de Canaan, mais en plus, il va recevoir des promesses, il va recevoir des certitudes, et puis aussi des encouragements de la part de Dieu. Il va avoir, en somme, constamment dialogue avec Dieu. Il est, lui, dans un plan que Dieu conduit. Ce n'est pas le cas du tout de Job. Et Abraham va commettre, bien entendu, des erreurs. Il va être défaillant dans certaines des épreuves auxquelles il est soumis, mais il va arriver à l'épreuve suprême à laquelle Dieu va le soumettre, l'offrande de son fils, dans les conditions que nous savons, 3 jours de marche pour aller au lieu où il doit offrir son fils en holocauste, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il va l'offrir en holocauste, et pendant 3 jours, Abraham supporte cette résolution de se conformer à la parole de l'Éternel, d'obéir à l'Éternel, et cela montre que dans le cœur d'Abraham, une connaissance de l'Éternel s'est déjà formée et qu'un amour pour l'Éternel y est apparu, et même un grand amour. Par conséquent, de ce côté-là, n'est-ce pas, Dieu a remporté un réel succès. Puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors toutes les promesses que je t'ai déjà faites s'accompliront. La sanction est mise, le sceau est mis sur les promesses elles vont sûrement s'accomplir, et c'est Abraham qui, par cette foi dont il a fait montre dans l'obéissance à Dieu, c'est par là qu'il a mis lui-même le sceau aux promesses de Dieu. Tandis que Job, lui, Job est un arabe. Il est en Arabie, il descend bien d'Abraham, mais il n'est pas dans le peuple de Dieu, il n'est pas compris dans le peuple de Dieu, et même c'est par Ésaü qu'il descend d'Abraham, et il descend par conséquent par une branche qui est hostile à Dieu. Alors, lui est pieux, c'est la figure de l'homme pieux, de l'homme même absolument remarquable et unique sur la terre à ce moment-là, dans sa piété, c'est l'homme très religieux, sincèrement religieux, dont la religion, disons, je parle de religion puisqu'il s'appliquait à toute forme, toutes sortes de formes d'obéissance pour montrer sa soumission et son obéissance à Dieu. Alors là, bien sûr, il est agréable à Dieu, Dieu le voit comme un homme intègre et droit, mais il n'a pas, lui, l'occasion d'exercer véritablement ce qui se nomme la foi du cœur. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il agit ainsi essentiellement par intelligence, un intérêt très bien compris, très intelligent, qui n'est pas sans être associé, nous le voyons maintenant tout de même, à un certain respect, même un grand respect pour la personne de Dieu et la souveraineté de Dieu, mais ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est la foi qui agit, on ne peut pas dire non plus qu'il y a l'amour dans le cœur de Job, car le contraire va se démontrer. Et c'est donc, là, vous voyez une expérience, comme je vous l'ai dit, une expérience que Dieu va conduire en se servant de Satan. Ce n'est pas la seule fois où Dieu va se servir de Satan et où Satan va faire une œuvre qui le trompe. Il va croire pouvoir mettre les plans de Dieu en échec et c'est lui qui va être en échec. C'est lui qui va perdre, en définitive, comme je l'ai rappelé, c'est Satan qui va lui-même, en somme, amener sa condamnation éternelle. Eh bien, donc là, il y a une expérience que Dieu conduit, il faut absolument que Dieu montre qu'il peut, qu'il est capable d'amener les hommes à l'aimer, car il n'y aura pas de salut, comme je l'ai dit, il n'y aura pas du tout de salut, le salut serait impossible, si le cœur de l'homme, quelque jour, n'était amené à concevoir un véritable amour pour la personne de Dieu. Et nous avons maintenant, au chapitre 2, la visite des trois amis, et trois amis de Job. Alors, lisons les versets 11 à 13. Éliphaz de Téman, Téman est un pays dont nous parle l'Écriture, et les habitants de ce pays étaient renommés pour leur sagesse. Puissions-nous être tous de ce pays-là. Le second personnage, Bildad de Shuach, Shuach est une tribu arabe descendant de Keturah, Keturah qui était la seconde femme d'Abraham, ainsi que nous l'apprend le chapitre 25 et le verset 2 de la Genèse. Et le troisième personnage, Tsophar de Naama, Naama étant une contrée inconnue. Les trois amis arrivent donc avec de bonnes intentions. Ils se sont concertés et ils veulent aller ensemble plaindre leur ami et le consoler. Ils arrivent et ils le voient de loin, ils savent que c'est lui, peut-être justement parce qu'il était là, sur ses cendres, sur ce monticule de cendres. Ils suppose que c'est lui, et c'était bien lui en effet, mais ils ne le reconnaissent pas, tellement il a changé. Et on peut dire que Job leur cause un véritable choc, si bien que leur cœur se remplit d'angoisse et de chagrin. Il reste silencieux pendant toute une semaine, 7 jours et 7 nuits, et cela montre qu'ils éprouvaient vraiment une peine de solidarité pour Job. Ils respectaient la douleur que leur ami supportait et dont ils étaient, eux, les témoins. On voit bien quand on est près de quelqu'un avec qui on est lié, s'il souffre, n'est-ce pas, il semble que l'on évalue la souffrance. On peut évaluer, mais évidemment, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. La consolation de ceux qui souffrent est une chose bien difficile et bien délicate. Et les consolateurs sincères sont eux-mêmes souvent mis à l'épreuve, une épreuve évidemment tout autre que celle de la personne consolée, à consoler la personne qui souffre, mais les consolateurs sont mis eux aussi à l'épreuve car ils ne savent pas quoi faire. Nous nous trouvons là, n'est-ce pas, devant le grand problème de la souffrance humaine, et on a dit avec juste raison que Job était le livre qui posait ce problème de la souffrance humaine. Seulement, il ne faut pas voir que cela dans le livre de Job. Si l'on ne voit que cela, on laisse de côté le grand aperçu sur le plan de Dieu, c'est-à-dire, en somme, l'on néglige la plus haute valeur spirituelle de ce livre. Lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui souffre et qu'on veut le consoler, les paroles sont bien difficiles à trouver. Elles risquent d'être maladroites et l'on se rend compte tout de suite, n'est-ce pas, de l'impuissance des mots, des paroles. Que va-t-on dire? Des paroles vaines, des paroles conventionnelles. On essaiera de trouver dans son cœur vraiment une pensée, quelques pensées qui pourraient être utiles à l'ami qui souffre. Mais c'est bien difficile d'exprimer quelque chose. C'est bien difficile. C'est pourquoi les consolations dont l'Évangile nous instruit sont et ne peuvent être que surnaturelles. Nous l'avons dit au cours de la retraite du mois de juillet, en étudiant la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, les consolations sont un réconfort spirituel de Dieu. Ce sont les consolations divines. Il ne s'agit pas de nos pauvres consolations, de nos pauvres mots, des mots que nous essaierions de trouver, d'apporter pour consoler un peu ceux qui souffrent. Et voyez, les amis eux-mêmes qui partent les amis de Job qui partent d'une excellente intention vont dériver entièrement dès qu'ils vont se mettre à parler. Dieu seul peut dispenser de telles consolations qui ont une force réconfortante. Aussi, l'Écriture nous donne-t-elle tout simplement cet avis dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Et il n'y a guère d'autre chose à faire que de pleurer avec ceux qui pleurent, d'être en commisération avec eux, mais là, on se sent, évidemment, l'homme se sent incapable, impuissant. Et nous arrivons au chapitre 3, qui va être celui des plaintes de Job. Je pense que nous pouvons encore lire ce chapitre, que nous n'allons pas d'ailleurs étudier dans le détail. Le silence ne peut pas durer plus de ce temps qui nous est indiqué, une semaine entière, Et Job a pu lui aussi, en présence de ses amis, s'imposer le silence. Mais comment restera-t-il constamment dans le silence, en présence d'amis qui l'entourent et qui sont là pour parler, et lui pour leur parler? Ne laissera-t-il pas sa douleur se manifester en d'amères plaintes? Il lui faut décharger un peu son cœur. Sa douleur, longtemps contenue, éclate ici avec véhémence, et l'on peut dire qu'il est vraiment dur de supporter constamment les aiguillons de la souffrance physique. Il faut comprendre ceux qui souffrent par l'action d'une maladie. C'est une chose pénible, dure, véritablement dure. Il y en a qui ont parlé de la souffrance morale comme étant bien plus éprouvante et bien plus dure que la souffrance physique. Ce n'est pas toujours le fait. La souffrance physique est une souffrance qui, surtout lorsqu'elle se continue, lorsqu'elle est incessante, lorsqu'elle revient constamment, est une souffrance lancinante, une souffrance dure à supporter. Elle éprouve tout l'organisme et elle éprouve aussi, bien sûr, le moral. En étudiant la maladie, nous avons vu, n'est-ce pas, que le point de départ de la maladie à considérer est l'esprit. L'esprit, n'est-ce pas, puis l'âme et le corps. Bien sûr, le corps peut être, lui, directement atteint par quelque chose qui l'éprouve. Et alors, la maladie, n'est-ce pas, peut suivre le chemin inverse, remonter à l'âme et même à l'esprit. Car l'esprit, chez un chrétien, est aussi atteint par la maladie. Mais disons que la guérison, elle, viendra sûrement par l'esprit, puis par l'âme, jusqu'au corps. Mais enfin, la maladie physique, la maladie du corps, est souvent génératrice d'une souffrance extrêmement lourde et extrêmement difficile à supporter. Et l'on comprend que Job, ici, ne puisse pas se contenir et qu'il soit obligé vraiment de décharger un peu son cœur par la parole. Il y a dans ce chapitre que nous venons de lire trois parties. Dans la première partie, du verset 1 au verset 10, Job maudit le jour de sa naissance. Et puis, dans les versets 11 à 19 inclus, il regrette de n'être point mort-né, comme les petits-enfants qui meurent en naissant ou au moment peut-être de naître, peu avant de naître, les morts-nés, n'est-ce pas, ou ceux qui meurent aussitôt après la délivrance de la mère, ils meurent immédiatement. Ils regrettent de n'avoir pas été ainsi. Et dans les versets 20 à 26, il pose une question redoutable. Pourquoi la vie, l'existence, est-elle donnée à des hommes qui sont appelés à tant souffrir, et comme il le dit, que Dieu cerne de toutes parts, qui n'ont pas de relâche? Pourquoi ces hommes ou ces femmes, destinés à tant de souffrances, pourquoi l'existence leur est-elle donnée? En somme, si nous continuons la pensée de Job, nous arrivons à ceci: mieux vaudrait que ces gens-là ne soient pas mis en existence, que Dieu les empêche de naître, ne les fasse pas naître. Bien sûr, cela dénote, et nous y sommes tout de suite, n'est-ce pas, une grande lacune dans la pensée, le cœur de Job. Il ne connaît pas Dieu. Là, nous le voyons tout de suite, n'est-ce pas? Il ne connaît pas Dieu. D'abord, ce n'est pas Dieu qui va cerner de toutes parts les hommes en vue les éprouver constamment par une souffrance très vive. Et puis, Ensuite, n'est-ce pas, il ne comprend pas, il ne comprend rien, absolument rien, à ce moment-là, des grands desseins de Dieu qui déjà pourtant de son temps se sont mis en place par le choix d'Abraham, il devait connaître certainement l'épopée d'Abraham, si je peux l'appeler ainsi, n'est-ce pas, arriver à jusqu'à offrir son fils aimé en holocauste, il connaissait certainement ces choses. Et puis ceux qui après Abraham étaient aussi ses fils qui étaient faits dépositaires des promesses, les promesses de Dieu étaient certainement connues en Orient, mais il n'y a rien compris. Il n'a rien retiré de cela. Nous le voyons déjà, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va commence à nous éclairer sur l'expérience par laquelle cet homme va passer et sur le besoin où il est d'une transformation totale en son être. Son comportement sur la terre est magnifique, il plaît à Dieu, il est intègre et droit, c'est vrai, et il est agréable à Dieu, mais Dieu lui aime. Ne regarde pas seulement ce bon comportement, qui ne peut être que transitoire, qui ne peut être, ne peut s'étendre que pendant toute la vie du personnage, mais Dieu voit autre chose, lui, il voit l'éternité, et cet homme qui lui est agréable, il veut le sauver. Et Dieu va nous montrer comment il veut sauver non seulement le personnage Job, qui est là pour nous instruire en quelque sorte, n'est-ce pas, mais il veut sauver des hommes, et comment, malgré l'objection de Satan, malgré même l'obstination de Satan, et l'action opposée de Satan, comment Dieu va sauver les hommes et parvenir à faire naître en leur cœur un amour, cet amour qui va permettre de les promouvoir jusqu'à l'état de perfection et par conséquent jusqu'à l'éternité. Tel est le grand problème, le grand point de vue spirituel qu'il ne nous faut pas perdre de vue pour l'étude de ce livre. Nous continuerons demain.